Nous sommes de retour d'Avignon et de son festival. Enfin presque, nous avons rapporté dans nos bagages un portrait du chorégraphe britannique Akram Khan qui occupait cette année la cour d'honneur et que vous entendrez à 13h30. Mais avant cela, il vous faudra prendre le ferry pour rejoindre l'île de Guernesey. Là se trouve Hauteville House, la maison dans laquelle Victor Hugo le proscrit a passé 20 années en exil. 20 ans à combattre de sa plume Napoléon le Petit, à écrire poésie et romans et à faire de sa maison une œuvre en soi. Après avoir été restaurée, celle-ci a rouvert ses portes, laissant entrevoir un Hugo architecte, sculpteur, décorateur, une dimension moins connue du grand homme dont nous allons parler aujourd'hui en compagnie du directeur des maisons de Victor Hugo, Gérard Audinet, de la professeure de littérature Florence Nogrette et du biographe Jean-Marc Ovas. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table d'été. Maëlys Besserie.
Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Alors, petit point d'abord, Gérard Audinet, en tant que directeur, pourquoi ces grands travaux? Qu'était-il arrivé à la maison d'Hauteville House de Guernesey de Victor Hugo?
Oh, c'est la faute à Hugo, pas la nôtre.
C'est toujours la faute à Hugo.
C'est toujours la faute à Hugo. Il était génial sur tous les points, sauf en ingénierie. Et donc, il a construit des appentis, il a ajouté des choses à la maison. Une serre à deux étages, un look-out sur le toit, et qui ont pris l'eau depuis l'origine. Donc, on a eu des problèmes d'infiltration depuis l'époque de Victor Hugo, ce qui n'a pas arrangé ses structures. En plus, alors ça amuse beaucoup les gens, mais... digne opposant de la peine de mort, il ne voulait pas de fenêtre à la guillotine dans son appartement, il voulait des fenêtres à la française avec des huisseries très fines qui prenaient aussi l'eau. Voilà.
Donc la conservation de l'œuvre, la conservation de la maison elle-même et de ce qui s'y trouve.
Voilà, était un peu en danger. Et puis les décors s'usent, il y a des textiles, donc naturellement ça vieillit, ça tombe en poussière. Et les restaurations de décors étaient bloquées justement par ces problèmes d'infiltration. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une campagne avec deux aspects. Des travaux de gros œuvres pour refaire vraiment à l'identique, puisque c'était la grande philosophie de cette campagne, les structures, la serre à deux étages, le look-out, ça c'est l'architecte en chef des monuments historiques, Riccardo Giordano, qui s'en est chargé.
Alors le look-out qui est cette grande pièce,
c'est cette
baie vitrée
de verre, voilà, sur le toit, voilà, où on peut écrire face à l'océan, en plein ciel, en quelque sorte, comme dirait Hugo. Et ça nous permettait donc, parallèlement, de faire des restaurations et des restitutions de décors.
Alors Florence Nogrette, on n'est pas un symbole près, hein, pas de fenêtre à guillotine. Faut rappeler justement que le Hugo de l'exil, avant de rappeler les conditions de son exil, c'est aussi tout un symbole que lui-même a travaillé, mis en scène.
Oui, quand il est en exil, il est vraiment une figure d'outre-Manche. Hein. Donc cette figure, elle s'est construite petit à petit. Hein. Elle n'a pas été évidemment voulue par Hugo dès le départ. Hein. Et il y a eu deux périodes dans son exil avant, pendant toute la période où il était vraiment exilé, en subissant cet exil, et puis une deuxième partie après la loi d'amnistie de 1859. Où il a choisi de rester en exil alors qu'il aurait pu rentrer, comme d'autres avaient choisi de rentrer.
Alors avant de rentrer exactement dans l'exil, qu'est-ce qu'on peut dire de l'œuvre littéraire au moment où il part? D'une certaine manière, la première partie de l'œuvre est achevée. En tout cas, il y a déjà une œuvre très complète qui va trouver un deuxième souffle pendant l'exil, Florence Nogrette.
Oui, certainement. Le Hugo que nous connaissons aujourd'hui, cette grande stature dont vous parliez tout à l'heure, c'est une stature qui s'est constituée par l'exil. Les grandes œuvres qu'il a écrites en exil, Châtiment, Les Contemplations, La Légende des Siècles, Les Misérables et d'autres grands romans, ces grandes œuvres ont été écrites en exil et à cause de l'exil aussi. Ce sont aussi des œuvres qui parlent de l'exil. Donc cette grande stature de voix presque divine, c'est cette position en marge qui lui a permis de l'acquérir, de la prendre. Donc l'exil a certainement façonné le grand homme qu'est devenu Victor Hugo, même s'il était avant l'exil déjà un écrivain très reconnu.
Jean-Marc Ovas, on va revenir un peu à la biographie. Au moment où Hugo part, il ne part pas tout de suite à Guernesey. C'est un exil en plusieurs étapes. Alors peut-être on va revenir sur le parcours politique qui le mène à l'exil et puis sur les étapes.
Oui, alors donc commençons chronologiquement. C'est vrai qu'il n'y a pas un exil. On a l'habitude de dire, on pensait que c'est monolithique, mais il y a plusieurs épisodes. Avant, il y a toute une œuvre littéraire, une vie politique déjà importante, puisque bon, l'exil, on rappelle, hein, c'est au moment où Louis-Napoléon Bonaparte fait son coup d'État. Louis-Napoléon Bonaparte était président, premier président élu au suffrage universel masculin de la Deuxième République, et donc il est président de la République, et il n'a pas le droit de briller un second mandat, et il veut rester au pouvoir, et à ce moment-là, il fait un coup d'État. C'est le 2 décembre 1851, et Hugo, qui est député à cette époque-là, on disait représentant du peuple, mais c'était la même chose, c'est député, Hugo s'oppose évidemment à ce coup de force, qui enlève toute légitimité à ce régime de la Deuxième République. C'est la fin de cette République.
Alors, Victor Hugo, jusque-là, avait eu un parcours politique assez riche, puisqu'il a beaucoup évolué, entre étant dans l'entourage du roi à ses débuts, puis finalement s'accommodant assez bien de la République.
Oui, donc en 51, il a une cinquantaine d'années déjà. Donc il faut voir, il a une vie derrière lui, il a une assez longue vie derrière lui. Il a commencé alors, vraiment au tout début du siècle, il a commencé très à... On peut dire à droite aujourd'hui. En tout cas, il était royaliste au moment de la Restauration, parce que sa mère l'avait éduqué dans ces bons sentiments-là. Et ensuite, il a évolué avec son temps. Il y a une pensée dans littérature et philosophie mêlée qui est très amusante. Il dit il écrit, c'est une mauvaise chose de dire de quelqu'un qui n'a jamais changé d'idée, puisque le temps passe, les choses évoluent, et garder toujours la même idée, c'est tout à fait contestable. Donc il a évolué avec son temps, il est passé, il a été séduit par le libéralisme bonapartiste à un moment, et puis après il y a eu la grande époque de la monarchie de Juillet, qui a été un peu compliquée dans son évolution, en tout cas qu'il a fini par rejoindre petit à petit dans les années 40, on va dire. Et effectivement, là, à ce moment-là, il était assez proche des milieux du pouvoir, suffisamment proche pour avoir été nommé par le roi lui-même, pair de France. La Chambre des Pairs, c'était à l'époque l'équivalent du Sénat aujourd'hui, la Chambre haute. Mais là, à l'époque, on était nommé par le roi, donc il fallait être proche du roi.
Petite parenthèse, Gérard Audinet, votre maison Victor Hugo de la Place des Vosges cette fois-ci, qui elle-même est en train d'être restaurée maintenant, un passage de relais de Guernesey à la Place des Vosges, a accueilli cette année une exposition sur les caricatures qui retrace aussi cette histoire politique de Victor Hugo.
Oui, c'était sous le jour de la moquerie, et qui rappelait à quel point Victor Hugo a été critiqué. Il n'a pas toujours été sur le piédestal sur lequel on le connaît aujourd'hui. Mais effectivement, les caricatures permettaient de suivre cet itinéraire politique principalement autour de la Deuxième République. C'était, et puis après la gloire aussi qui a été un peu malmenée. Mais sous la Seconde République, on voyait clairement que Victor Hugo était très malmené, très attaqué. D'ailleurs, peut-être moins l'écrivain, moins le représentant du peuple, même peut-être que le patron de presse occulte, puisque ses fils, avec deux amis, Paul Meurice et Charles Vacry, avaient créé un journal, L'Événement. Et c'est pour ça que Victor Hugo est souvent caricaturé en compagnie de Girardin, qui est aussi un autre patron de presse.
Alors, Victor Hugo, avec son front immense, caricaturé de cette manière-là, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire, Florence Nogrette, justement, de cette figure du Victor Hugo romantique, qui a cette carrière qui convient aussi à ce 19e siècle-là, à la fois d'écrivain et d'homme politique. Qu'est-ce qu'on peut dire de la figure qu'il est avant l'exil, justement, avec cette double carrière?
En tant qu'écrivain, avant l'exil, il est très célèbre, certes, mais on a parfois un point de vue rétrospectif qui déforme un petit peu les choses, et on peut avoir tendance à grossir sa responsabilité en tant que prétendu chef de file du mouvement romantique. Alors, il était certes très connu, très influent, mais chef de file, ça serait peut-être un petit peu excessif, hein, parce que à partir de cette vision qu'on a de lui, on a parfois périodiser le romantisme en le réduisant au plus petit tampon possible, c'est-à-dire en le faisant commencer en 1830 avec Hernani et en le faisant se terminer en 1843 avec les Burgraves. Alors qu'en réalité, c'est un mouvement qui est très vaste, qui est très complexe, dont il est une des figures phares, mais qu'il n'a pas, lui tout seul, dirigé malgré
ni
tout.
Porté. Ni porté. On va écouter, puisque vous nous parlez...
Seul sur ses épaules.
Puisque vous nous parlez d'Hernani, on va écouter un extrait de l'opéra de Verdi, inspiré justement d'Hernani. Come ergia dal cespite d'ora passito fiore l'aragonese vergine scendea mi voce ad cuore. Et c'est l'acte 1 qu'on entend chanté par Luciano Pavarotti, accompagné de l'orchestre de l'Opéra National du Pays de Galles, qui retrace cette histoire d'Hernani. Alors, l'exil qui fera suite à cette grande période parisienne, est-ce que l'exil, justement, Jean-Marc Ovaz, s'inscrit dans cette continuité de la figure romantique? Est-ce que ça fait partie aussi de cette image-là, de l'écrivain en désaccord avec son pouvoir, qui aussi prend la dimension de celui qui, de loin, observe le pays?
Oui, c'est une vision un peu téléologique, mais on est tenté de la faire et on la vérifie très facilement en lisant des textes incroyables de 1832, par exemple, au moment du procès du roi s'amuse, c'est un peu après Hernani, où le roi s'amuse a été supprimé, interdit par la censure, alors que le nouveau régime avait aboli la censure, la monarchie de Juillet, et Hugo fait un procès à la Comédie française pour dénoncer ce rétablissement de la censure. Il plaide lui-même, ce qui lui est arrivé à plusieurs reprises. Donc il a un avocat, mais il plaide aussi lui-même. Et à la fin de son magnifique plaidoyer, qui est un peu son premier discours politique, le premier discours politique de sa vie, puisqu'on lui a dit à ce moment-là, à cette occasion-là, qu'il devrait faire de la politique, il termine en disant « si ça continue comme ça, on va m'exiler ». Et on est en 1832. Voilà, donc 20 ans avant l'exil. On peut dire que effectivement cette notion d'exil est récurrente. Et puis bon, ces grands personnages, Hernani aussi, voilà, l'exil est présent effectivement dans l'écriture et dans la représentation du monde du romantisme en général et de Victor Hugo en particulier.
Alors il y aura trois étapes, la Belgique, Jersey et Guernesey.
Oui, on l'oublie souvent et c'est important de le rappeler, puisque la première étape, c'est comme pour tous les Français qui partent en exil à cette époque-là.
Les proscrits.
Tous les proscrits, ils partent l'endroit la frontière la plus proche, le pays le plus proche, c'est toujours la Belgique, et puis avec une facilité de langue. Et donc, les proscrits se retrouvent à Bruxelles, et ce premier exil dure 9 mois, ce qui n'est pas rien, surtout pour Hugo, qui a écrit 2 livres importants à cette occasion. Une grande partie de ce qui sera plus tard Histoire d'un crime, et puis surtout Napoléon le Petit. Donc c'est une période très, très intéressante. Il est furieux de ce qui s'est passé, et il a une énergie décuplée par la colère qui lui fait écrire ces pamphlets remarquables que sont Histoire d'un crime, mais surtout Napoléon le Petit. Ça, c'est la première étape.
Alors, petite parenthèse, Florence Nogrette, Napoléon le Petit, puis les châtiments, il va y avoir une verve politique qui va apparaître dans son œuvre et qui va transformer l'œuvre qui était celle d'Hugo.
Oui, les questions politiques l'intéressaient déjà, mais en effet, dans ces deux ouvrages, qui sont des ouvrages satiriques vraiment très mordants, très féroces, là, il se rapproche d'une veine qui est celle de Juvénal, par exemple, celle de la satire, et ce sont des ouvrages extrêmement, extrêmement forts. Châtiment faisait partie, une de ses œuvres préférées. Quand on lui demandait, j'ai découvert les mémoires d'une Anglaise qu'il a fréquentée à Guernesey, qui était dans son salon à Guernesey, et quand elle lui demandait quelle était son œuvre préférée, celle à laquelle il tenait le plus, il répondait Châtiment.
Alors, suite au départ en Belgique et à Napoléon le Petit, il va falloir à nouveau prendre la route. Et ce sont les îles anglo-normandes qui vont l'accueillir. Et d'abord Jersey.
Oui, parce que on l'avait accueilli, les autorités l'avaient accueilli à Bruxelles à condition qu'il se taise. Ils avaient peur de leur voisin français. Et donc, la question sine qua non, c'était vous restez, mais vous ne publiez rien. Voilà, et vous vous taisez.
C'est pas ce qui s'est passé.
Si, il les connaissait. Bon, il avait été assez bien reçu par le bourgmestre de Bruxelles, Charles de Broucker, et le ministre de l'Intérieur, Charles Rogier. Et donc, il les connaissait assez bien. Et il a tenu ses promesses. Il a dit, je reste tant que je ne publie pas. Dès que je publierai, je m'en irai. Or, donc, il a terminé Napoléon le Petit. Napoléon le Petit est sous presse. Et donc, il s'en va de lui-même. Mais s'il était resté, il aurait été expulsé. C'était la condition de son accueil. Et là, il choisit les îles anglo-normandes. Alors, la plupart des Français auraient choisi Londres. La plupart des proscrits partaient en Angleterre. Lui n'a jamais aimé Londres. Les îles anglo-normandes lui plaisaient pour plusieurs raisons. Peut-être parce qu'elles avaient reçu Chateaubriand émigrer.
Son grand modèle.
C'est une des raisons possibles. En tout cas, c'était des petites îles charmantes où on parlait encore français, paraît-il, un peu plus qu'aujourd'hui, mais encore un peu. Et puis il y avait cette image de l'île, hein, évidemment. Son deuxième modèle, Napoléon, l'exil sur une île, avec ça lui donne une stature tout à fait particulière. Donc voilà, il y avait plusieurs raisons. Et puis ça paraissait, ça se vérifiera, beaucoup plus vivable pour lui que cette immense mégalopole de Londres qui lui faisait un peu peur.
Alors, il va y avoir Jersey, mais à nouveau, il va être contraint de partir de Jersey.
Oui, alors les années de Jersey sont très importantes, c'est 3 ans et quelques. C'est très important parce qu'on le sait un peu moins, parce que bien sûr, Guernesey et Hauteville-la-Hause a un peu effacé cette période de Jersey, puisqu'il ne reste plus rien à Jersey, la maison a été détruite, qui s'appelait Marine Terrace. Mais c'est une période extrêmement importante pour son œuvre, où il a énormément écrit, mais pas beaucoup publié, donc c'est pour ça qu'on l'a un peu oublié. Mais les 3 années à Jersey sont très importantes. Pourquoi ? Alors, elles sont restées quand même dans l'imaginaire, au moins de l'imaginaire qu'on a d'Hugo, parce que c'est là qu'ils ont fait tourner les tables, c'était à Jersey, pas ailleurs, donc c'était dans cette période assez restreinte. Et puis c'est là aussi que s'est développé ce qu'on appelait l'atelier photographique de Jersey, en tous les cas la photographie, donc, qui en est assez balbutiement, et les premières photos de Victor Hugo, si on oublie les daguerréotypes d'avant qu'on n'a pas beaucoup vu, c'est l'atelier de Jersey. Donc la photographie, l'étape tournante, la vie de famille, puisqu'il avait toute sa famille, il avait réussi à réunir autour de lui toute sa famille à Jersey.
Alors il a emmené tout le monde en exil, Gérard Houdinet, y compris Juliette Drouet, qui est sa maîtresse, avec qui elle restera toute sa vie. Et tout le monde arrive à Hauteville, alors d'abord pas dans la maison d'Hauteville, mais dans une maison de location juste à côté.
Dans une maison de location juste à côté, qu'en fait, Victor Hugo achètera pour Juliette Drouet...
Plus tard.
Quelques décennies plus tard.
On l'appelle Hauteville 2 ou Hauteville Ferry ?
Alors, il y a eu cette appellation Hauteville Ferry qui a prévalu pendant longtemps. Et en fait, dans les textes, on la trouve pratiquement jamais. Et Victor Hugo, dans ses carnets, parle toujours de Hauteville 2. Ce qui a un sens, parce que il y a Hauteville et Hauteville 2. Hauteville 2, c'est la maison de Juliette, mais c'est leur maison à eux. Et Juliette a vraiment un statut de seconde épouse dans cette maison. Donc, le 2 est parlant.
Alors, le 2 est parlant, et arrivé dans cette maison, il va pouvoir, grâce aux contemplations, acheter et devenir propriétaire pour la première fois de sa vie. Et cette maison va lui permettre de ne plus pouvoir être expulsé, de Guernesey. Principe, en tout cas, ça va le protéger.
Selon le droit normand de Guernesey, un propriétaire n'est pas expulsé. Voilà, mais c'est vrai que c'est un tournant dans l'exil. C'est un lieu de, sans doute, de crispation aussi familiale, puisque là, acheter une maison, devenir propriétaire, ça veut dire qu'il s'ancre dans l'exil, qu'il pense finalement que cet exil ne finira qu'avec sa mort. Ce que la famille ressent aussi, et la famille aurait, elle, préféré un exil à Londres, ça, sans aucun doute. Et c'est un changement véritable, je pense, de l'aménagement de cette maison. C'est d'ailleurs un nœud assez fascinant à observer, parce qu'on a un moment de création absolument intense. On a tous les grands poèmes philosophiques, Dieu, l'âne, la légende des siècles, la fin de Satan, tout ça est en travail, en même temps qu'il aménage la maison et en même temps qu'il recommence à dessiner énormément. Donc là, il y a vraiment un
renouveau créatif.
Extrêmement intense, oui.
Alors, non pas qu'il avait arrêté, mais il y a quelque chose de diversifié à travers à la fois l'œuvre plastique, le dessin, mais aussi même au sein de l'œuvre, justement, puisque Florence Honnegret, il y a aussi cette inspiration que provoque la mère sur lui. Il va y avoir cet échange avec son fils qui va dire « Moi, je vais traduire Shakespeare » et Hugo disant « Moi, je vais étudier la mère ».
Oui, bien sûr, il contemplait la mer depuis son bureau, donc c'est une grande source d'inspiration qui a inspiré le merveilleux roman Les Travailleurs de la mer et qui a inspiré aussi main poème. La mer est une sorte de porte ouverte vers l'infini. Donc l'observation des tempêtes aussi, le sort des marins l'intéresse aussi énormément. Il se baigne aussi, c'est un autre de ses passe-temps favoris, de pratiquer la natation, de se baigner, se promener aussi au bord de la mer, et tout ça se retrouve dans son œuvre. Oui, bien sûr. Notamment dans Les Travailleurs de la mer.
Alors il y a ce contact avec la nature qui se recrée de par l'insularité. Et qui va se ressentir aussi, notamment dans Les Travailleurs de la mer. Je vous propose d'en écouter un extrait.
L'Atlantique ronge nos côtes. La pression du courant du pôle déforme notre falaise ouest. La muraille que nous avons sur la mer est minée de Saint-Valery-sur-Somme à Igneville. De vastes blocs s'écroulent, l'eau roule des nuages de galets, nos ports sans sable ou sans pierre, l'embouchure de nos fleuves se barre. Chaque jour, un pan de la terre normande se détache et disparaît sous le flot. Ce prodigieux travail, aujourd'hui ralenti, a été terrible. Il a fallu pour le contenir cet éperon immense, le Finistère. Qu'on juge de la force du flux polaire et de la violence de cet affouillement par le creux qu'il a fait entre Cherbourg et Brest. Cette formation du golfe de la Manche aux dépens du sol français est antérieure aux temps historiques. La dernière voie de fait décisive de l'océan sur notre côte a pourtant date certaine. En 709, 60 ans avant l'avènement de Charlemagne, un coup de mer a détaché Jersey de la France. D'autres sommets des terres antérieurement submergées sont comme Jersey visibles. Ces pointes qui sortent de l'eau sont des îles. C'est ce qu'on nomme l'archipel normand.
Alors ça, c'était pas Les Travailleurs de la mer, mais un discours préalable, Jean-Marc Kovas, un discours de Victor Hugo contre l'usure des côtes en rapport avec la mer aussi.
Oui, c'est un discours étonnant. On n'attend pas ça de Victor Hugo en politique. C'est un de ses discours les plus connus de la Chambre des Pairs. Il en a pas fait beaucoup à la Chambre des Pairs. Ses grands discours connus sont à l'Assemblée nationale. Il a fait un discours qui est très d'actualité aujourd'hui, on le ressort assez régulièrement, sur la question de la loi du littoral, de l'usure des côtes françaises par la mer, qui ronge les côtes.
Alors ça, c'était du coup une préoccupation qui existait avant et qui va se concrétiser dans cette œuvre littéraire, Les Travailleurs de la mer, dont cette fois-ci je vous propose d'écouter un extrait.
Il arrive quelquefois à Jersey ou à Guernesey qu'à la campagne, à la ville même, passant dans quelques coins déserts ou dans une rue pleine d'habitants, pour rencontrer une maison dont l'entrée est barricadée. Le « ou » obstrue la porte, on ne sait quels hideux emplâtres de planches clouées bouchent les fenêtres du rez-de-chaussée, les fenêtres des étages supérieurs sont à la fois fermées et ouvertes, tous les châssis sont verrouillés, mais tous les carreaux sont cassés. S'il y a un bel, une cour, l'herbe y pousse, le parapet d'enceinte s'écroule, s'il y a un jardin, il est orti, ronce et ciguë, et l'on peut y épier les insectes rares. Les cheminées se crevassent, le toit s'effondre, ce qu'on voit du dedans des chambres est démantelé, le bois est pourri, la pierre est moisie. Il y a au mur du papier qui se décolle, vous pouvez y étudier les vieilles modes du papier peint, les griffons de l'Empire, les draperies en croissant du directoire, les balustres et les cipes de Louis XVI. L'épaississement des toiles pleines de mouches indique la paix profonde des araignées. Quelquefois, on aperçoit un pot cassé sur une planche, c'est là une maison visionnée. Le diable y vient la nuit. La maison, comme l'homme, peut devenir cadavre. Il suffit qu'une superstition la tue. Alors, elle est terrible. Ces maisons mortes ne sont point rares dans les îles de la Manche.
On entendait Colette Fellouz qui lisait Les Travailleurs de la mer. C'était le 6 mai 2005 sur France Culture. Gérard Audinet, rassurez-nous.
Ce n'est pas une description d'Hauteville.
Ce n'est pas Hauteville. On n'en est pas arrivé là, mais en tout cas, c'est ce qu'on pouvait voir dans l'île de Guernesey à l'époque. L'île de Guernesey qui était bien loin du paradis fiscal qu'il est devenu. Comment était cette maison au moment où il en fait l'acquisition et lui décide de la faire de ses mains d'une certaine manière, en tout cas d'en refaire l'intérieur?
Oui, on a appris des choses là, à faveur de la restauration. On a vu par exemple le papier peint d'origine quand il a acheté la maison. Elle devait avoir un aspect assez petit bourgeois. Et Victor Hugo va la transformer complètement, parce que Victor Hugo, décorateur, ce n'est pas une question de bon goût, de joliesse, de choisir la teinte des murs et d'assortir les rideaux. C'est vraiment une création à part entière.
Alors ça, il faut en donner quelques détails. Il y a justement cette volonté d'inscrire dans la pierre l'œuvre littéraire, d'y faire des références, de créer des petits doubles de soi.
Alors c'est un peu complexe, c'est-à-dire que il crée une double peau à l'intérieur d'une pièce, c'est-à-dire qu'il va traiter à la fois les murs, le plafond, le sol, avec un collage de matériaux, des boiseries qu'il récupère, les vieux coffres guernesais, des tapisseries anciennes, des soieries, du feutre imprimé. Et dans chaque pièce, en fait, il va un peu raconter une histoire qu'il n'explicite jamais. Et il y a un autre matériau décoratif, effectivement, dans cette maison, c'est la mémoire. Il y a énormément de références au passé qu'il a quitté, qu'il a laissé derrière lui, son passé d'écrivain parisien, de romantique, de pair de France. Voilà, donc tout ça trouve place dans la maison. Le service de porcelaine offert par Charles X, les dessins qu'il appelle série des souvenirs, qui sont ses souvenirs de voyage avec Juliette, le portrait de Léopoldine, tout ça s'assemble. Et puis, bien sûr, des inscriptions, des sentences, qui sont des sentences à la fois d'hygiène, des sentences politiques aussi. Bon roi, roi qui s'en va, sentence républicaine, la grande inscription républicaine, aussi dans la salle à manger, et puis des références à son œuvre. Voilà, tout ça s'imbrique, tout ça se combine de façon extrêmement riche et complexe, ce qui fait qu'il n'y a pas un espace vide dans la maison, il n'y a pas un espace qui ne soit pas transformé par Victor Hugo. Donc c'est fait qu'on est vraiment dans l'atmosphère, dans l'univers Hugo, enveloppé complètement.
Alors qu'est-ce qu'il a fait de ses mains? Vous nous avez parlé de tissus qui ont dû être restaurés, il y a aussi un Victor Hugo charpentier, en tout cas qui a fabriqué de ses mains, taillé dans le bois.
Il est très très moderne, c'est presque un Marcel Duchamp, il fait du ready-made assisté, comme on dirait mes collègues vingtiémistes, mais il assemble, il conçoit beaucoup, il met la main à la pâte, alors il travaille avec tout un groupe d'artisans guernesiais, des menuisiers comme Peter Mauger, le plus connu, des peintres, des doreurs, qui donnent des instructions extrêmement précises. On a des petits croquis où il définit son projet et où il donne des explications aussi de réalisation. Pas oublier qu'il avait un grand-père menuisier. Et il choisit très précisément les couleurs. Ça a d'ailleurs été une révélation pour nous. On s'est aperçu que cette maison n'était pas aussi sombre qu'on le disait, et qu'elle était d'une couleur parfois extrêmement vive, brillante, étonnante, très, très flashy, on pourrait dire. Et vraiment, il décide de tout. Donc c'est lui qui décide de ces...
Il est maître d'œuvre.
De ces mariages de matériaux très très étonnants, de ces tapis dont il recouvre les canapés, et puis par moment il intervient un peu plus tard, au moment où il aménage justement la deuxième maison de Juliette, il crée cette nouvelle forme de panneaux qui sont gravés et peints d'après des motifs chinois qu'il emprunte aux porcelaines ou aux stores en bambou peint qu'il a acheté avec Juliette. Et il en crée un certain nombre pour lui, pour sa chambre, pour le look-out aussi.
Alors il y a eu des déménagements, certaines œuvres sont arrivées place des Vosges, il y a eu comme ça des déplacements d'œuvres qui se sont faits entre les diverses maisons.
Alors, principalement pour les décors de Juliette. La maison devait revenir à Victor Hugo après la mort de Juliette, ou à sa famille après sa mort à lui. Mais Juliette a décidé qu'après tout ce qui était dans sa maison était à elle, et donc que les décors devaient aller à son neveu. Et c'est son neveu qui en a hérité. Et après, Paul Meurice, fondateur du musée, a eu grand soin de les racheter, et ces décors maintenant sont place des Vosges. Pour Haute-Villehaus, presque tout est resté
sur place,
dans la maison, à quelques exceptions près. D'abord, dû à la générosité de la famille, avant la donation de la maison, la famille a souhaité, lors de la création du musée de la place des Vosges, donner les grands portraits de famille au musée de la place des Vosges et les remplacer par des copies dans la salle du billard où ils étaient accrochés à Guernesey. Et après, on a fait revenir, pour des raisons de conservation, les principaux dessins de Victor Hugo qui sont remplacés par des facsimilés sur place.
Florence Negrette, est-ce que, justement, on parlait de la citation et de l'autocitation, Victor Hugo, y compris dans son œuvre plastique, dans ses sculptures, dans ses dessins, fait des miniatures, des doubles de lui-même, de même qu'on a pu dire que beaucoup de figures, y compris Thénardier, y compris des figures surprenantes, étaient des Hugo cachés à l'intérieur de son œuvre. C'est pas quelque chose de nouveau.
Oui, enfin, ça relève de l'interprétation. C'est difficile à dire. On peut toujours trouver ce qu'on cherche quand on veut montrer quelque chose. Mais assurément, il y a certains personnages dans lesquels on peut être à peu près certain que Hugo s'est peint. C'est le cas de Marius dans Les Misérables, qui est un jeune homme qui suit à peu près la même évolution politique que Hugo. Jean-Marc parlait tout à l'heure du moment où il s'est intéressé au bonapartisme. Bon, c'est le cas. Le portrait physique de Marius, donc, qui deviendra le mari de Cosette dans Les Misérables, c'est le sien aussi. Donc là, on a avec ce portrait-là une sorte d'autoportrait. Oui, ça c'est certain. Et bien sûr, comme tout poète qui écrit de la poésie lyrique, eh bien, on a un jeu très fort qui parle et qui est évidemment le sien, mais qui est aussi un jeu ouvert à tous. C'est-à-dire que le lyrisme de Hugo, c'est un lyrisme que chacun peut s'approprier. C'est peut-être d'ailleurs une des définitions possibles du lyrisme.
Et un jeu qui n'est pas toujours tendre envers soi, un jeu très autocritique.
Oui, un jeu qui pratique l'ironie parfois, qui pratique l'autocritique, bien sûr. Et Hugo était, on le sait, un dessinateur aussi, pas seulement de paysages ou de bourgs ou de pendus, qui sont ses dessins les plus connus, mais aussi de petites vignettes, de petites caricatures, de caricatures des députés ou de personnes qu'il rencontrait, ou de ses propres personnages, Gavroche, Messe-Lethierry dans Les Travailleurs de la mer. Alors là, il ne s'agit pas d'autoportrait, mais c'était un portraitiste aussi, un caricaturiste. Il a été lui-même victime de caricature.
Et il a toujours été victime volontaire, Gérard Houdinet, puisqu'il a toujours donné l'autorisation.
Oui, à un moment, il y a la loi obligeait les dessinateurs à demander l'autorisation d'une personne qu'ils caricaturaient. Et bien sûr, Victor Hugo, toujours très respectueux de la liberté d'expression, a toujours donné son autorisation qui allait de soi.
Jean-Marc, oui. Du reste, la caricature est un hommage. Elle n'est pas que satire. Elle peut aussi être hommage à la personne cible.
Et elle entretient aussi une mythologie personnelle. Jean-Marc Covas, il y a aussi cette œuvre plastique. Est-ce que cette œuvre plastique était connu de son vivant? Est-ce qu'on savait Victor Hugo comme un artiste total qui était à la fois écrivain, poète, peintre, sculpteur?
Alors,
parce que c'est une image un peu méconnue à l'époque?
Non, c'est une image méconnue à l'époque. On le savait, seuls ses amis savaient qu'il dessinait. Hein. Vraiment, son premier, si vous voulez, le premier livre qu'il accepte de faire paraître avec des dessins, donc un livre de gravure, c'est à l'année des Misérables, en 62. C'est un album qui d'ailleurs n'a aucun succès, ce qui est assez amusant. En tout cas, la figure publique de dessinateur est assez tardive. C'est plutôt pour les amis.
Vous-même, vous l'avez intégré, des dessins dans votre biographie.
Bien sûr, c'est très important, parce que après, ça a été de moins en moins inconnu, et puis c'est un art qu'il a pratiqué toute sa vie, quasiment. C'est très important. Simplement, il tenait, je crois, et parfois on l'oublie un peu, il tenait à ce que ça ne prenne pas le pas sur son œuvre d'écrivain.
Alors l'écriture première, Gérard Houdinet, pourtant, quand on observe ce que disent les biographes sur le découpage de la journée, il y avait écriture le matin, puis travaux divers, y compris travaux manuels.
L'emploi du temps, il commençait à 5h du matin, et c'est vrai qu'il écrivait jusqu'à midi, et après l'après-midi, promenade, loisir.
Avant, il y avait quand même ce petit épisode qu'il faut raconter, sur le balcon, où il se lavait nu, faisait un petit coucou à Juliette.
En fait, il est assez cachetier, Victor Hugo. Il y a plein de choses. On sait pas toujours quand il fait les choses. Je pense qu'il essaye de rentabiliser son temps. Alors, la vie était plus réglée à Guernesey qu'à Paris avant, où il essayait de caser dans les coins son activité quand il pouvait. Lorsqu'il y a cette grande création de dessin en 1850, où il s'installe dans la salle à manger de Juliette. Donc c'est quand il a un moment, il vient le matin, le soir. Bon.
À Guernesey, il est moins dérangé d'une certaine manière.
À Guernesey, il est moins dérangé. Mais on sait quand il dessine. Il note quand même dans ses carnets qu'il a dessiné, qu'il a peint des cadres et tout, mais on ne sait pas toujours à quel moment de la journée. Alors, en tout cas, je pense d'ailleurs qu'il dessine souvent chez Juliette. Mais
oui, elle le dit dans ses lettres.
Florence Negrette, oui.
Elle lui écrit tous les jours. Elle écrit un journal épistolaire qui fait 22 000 lettres, puisqu'elle lui a écrit...
Ils ont une grande correspondance.
Oui, enfin, elle lui a beaucoup écrit.
Elle lui a beaucoup écrit, oui.
Et elle témoigne des moments où il vient travailler chez elle. En effet, tu as raison, Gérard. Il vient assez souvent travailler chez elle. Et elle travaille pour lui aussi, en copiant ses manuscrits, en l'aidant dans la correction des épreuves, à collationner les différentes versions. Elle est très, très... Elle est une collaboratrice de l'ombre, mais absolument précieuse pour lui.
La famille a suivi l'exil. Toute une équipe, en réalité, travaille pour lui et l'accompagne, Gérard Houdinet, en exil. Alors, il va y avoir les photos faites par son fils.
Il y a un peu de changement. Quand je vous parlais tout à l'heure de crispation familiale autour de l'achat d'Haute-Villahausse et de son aménagement, il y a une scène dès 58, si j'ai bonne mémoire, où il y a une fâcherie entre François-Victor et son père, et François-Victor lui dit « c'est ta maison, on finira par t'y laisser tout seul ». Effectivement, c'est ce qui va se passer. Charles va partir, Madame Hugo va multiplier les voyages à l'étranger, en France et à Bruxelles, chez son fils. Adèle va fuguer et François-Victor finira par partir après la mort de sa fiancée, Émilie de Putron. Ce qui fait que en 65, Victor Hugo est seul dans sa maison. Alors, une nouvelle...
Il y a Juliette qui est à côté.
Il y a Juliette à côté et il y a Julie Chenet, donc la sœur de Madame Hugo, qui a fait un mariage malheureux. Jean-Marc parlait du livre de gravures. Les gravures sont faites par Paul Chenet, qui est un sinistre personnage. Il a essayé un peu d'escroquer Victor Hugo à ce moment-là. Et donc lui, il est viré de la famille. Et du coup, la pauvre Julie, elle est accueillie à Hauteville, où elle va devenir l'intendante. Mais de façon très, très symbolique, d'ailleurs, dès qu'il se retrouve seul, il cadenasse la salle de billard, qui était vraiment la pièce pour la vie de famille, avec les portraits de famille, avec le billard pour passer les soirées ensemble. Et je crois que c'est très symbolique le fait qu'il ferme cette pièce et qu'elle ne sera plus ouverte jusqu'en 78, je crois, et brièvement pour une visite, mais c'est tout.
Et Julie est embauchée, elle aussi, pour copier Les Misérables. Alors au début, quand Juliette Drouet la voit arriver, elle n'est pas ravie d'avoir à partager ce travail qui lui tient tant à cœur.
Alors Les Misérables qui sont écrits en deux étapes, il y avait les misères
qui sont écrites en deux étapes. D'abord, dans les années 40. Avant l'exil, jusqu'en 48, il interrompt la rédaction avec la Révolution de Juillet, et puis il reprend ce manuscrit qu'il avait laissé dans une malle, la malle que Juliette Drouet elle-même avait apportée à Bruxelles. Et en 60, il reprend l'écriture des Misérables, qui sont publiés en 62.
Par un éditeur belge, d'ailleurs.
Oui. Et donc Julie aura participé, elle aussi, à la copie.
On va écouter Odile Blanchette, de Hauteville House, nous faire un peu visiter la maison.
On le sent encore très présent, sans que ça soit non plus pesant. Mais il était tellement l'instigateur du moindre décor. On connaît tellement les photos de Victor Hugo assis dans le jardin d'hiver, dans son look-out ou sur le balcon, ou dans le jardin avec ses petits-enfants, qu'il reste encore très très proche. Et on s'attend toujours au détour d'une porte à le voir arriver, sans parler des fantômes très chers à Lille. Lui, il était très très sensible, il a jamais vraiment dormi calmement à Hauteville. Il était très sensible justement aux présences nocturnes. Il a beaucoup décrit les fantômes d'Hauteville. Alors lui, ça serait l'hôte privilégié.
Gérard Houdinet, c'est une maison hantée, Hauteville House?
Il paraît qu'aujourd'hui il n'y a qu'une dame en bleu, si je crois bien, qui n'apparaît que dans le salon de tapisserie les jours de pluie et aux visiteurs anglais.
Alors ça va.
Donc je ne l'ai jamais vue. Oui, on a énormément de notations dans les carnets. On a tous les bruits, tous les frappements, tous les sentiments de présence, de souffle, de voix qu'il entend la nuit.
Il faut dire qu'il avait réveillé les esprits à Jersey, donc peut-être qu'ils l'ont accompagné.
Ils l'ont peut-être à
au moment où il faisait tourner les tables.
Bon, il y a une légende parce qu'on a dit qu'il y avait un suicide et un fantôme. Non, et en fait, on se trompe de Hauteville House. C'était la maison du vin et pas celle du du 38. Mais c'est vrai qu'il c'est amusant parce que justement quand après le départ de François Victor, d'ailleurs, il abandonne sa petite chambre du lookout sous les toits, il s'installe dans la chambre de François Victor. Et Julie Chenet dort dans la chambre voisine. Il y a un petit cabinet de toilette qui sépare les deux pièces. Et Victor Hugo, en fait, a peur la nuit, donc il demande à ce que les portes soient ouvertes entre les cabinets de toilette pour qu'il soit rassuré par la présence de Julie.
Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu cette maison immense? On a parlé du lookout.
Alors, elle n'est pas si immense. On rentre par un corridor, un vestibule qui traverse la maison jusqu'au jardin et qui distribue un certain nombre de pièces. La première à gauche, c'était la chambre d'ami qui a été occupée par Vacry. Et puis, on a tout de suite à droite le billard, le salon de tapisserie. Et puis après, donc l'atelier, qui est le rez-de-chaussée de cette serre à deux étages qu'il a construite contre la façade jardin. Et à gauche, la salle à manger, qui est une pièce extrêmement importante, qui est tout en boiserie et carreaux de Delphes avec des tapisseries au plafond. Et où il y a une symbolique extrêmement dense et complexe de symboles à la fois de présence des ancêtres morts et de discours politiques. Et puis on prend un escalier qui était beaucoup plus impressionnant à l'époque qu'aujourd'hui. C'est malheureusement quelque chose que je n'ai pas pu faire dans les restaurations. Il était complètement tapissé de feutres imprimés sur toute la hauteur du plafond. Et ce feutre imprimé recouvrait aussi la rampe d'escalier. Donc on montait cet escalier comme dans un corridor comme dans un labyrinthe de verdure, en fait, dans un jardin. Il y a énormément de de porosité entre le jardin et la maison. La maison est une sorte de jardin habitable et habité. Voilà. Et alors, au premier étage, on a, alors côté rue, ce sont les chambres domaine familial, donc les chambres des deux Adèles. Au-dessus, on aura les chambres des fils. Et alors, côté jardin, c'est l'espace proprement Hugo, donc au premier étage, avec une galerie de deux salons, salon rouge, salon bleu. Là, effectivement, on a l'impression de revivre le théâtre baroque de Victor Hugo.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette esthétique? Est-ce qu'on peut la qualifier, l'esthétique de la maison, de la décoration?
C'est l'esthétique, comme je vous ai dit, cubique de Victor Hugo, c'est-à-dire d'aménager l'espace, mais en même temps d'avoir des ambiances extrêmement différentes, parce qu'entre le salon de tapisserie, qui est entièrement en boiserie et en tapisserie ancienne, genre gobelin, tapisserie des Flandres, on est dans une atmosphère extrêmement cohérente, mais très très cosy, très renfermée, de verdure, comme on est. Et le salon rouge, qui est en damas rouge avec des tapisseries de perles dans des baguettes de bois doré avec un incroyable lustre à gaz qu'on a pu restituer et puis cet ensemble cheminée qui est très très étonnant avec des portes torchères en bois sculpté sans doute vénitien du 18e et puis les nains de jardin dans notre jargon qu'on a restitué, qu'on a remis, et là ça a été pour nous une expérience parce que on connaissait cet ensemble avec des vaches chinois à la place des, et j'ai dit non, on remet les nains de jardin, parce que alors toute l'équipe disait non Gérard s'il vous plaît pas les nains de jardin, puis je dis c'est sur les photos on les met, et quand on les a mis on a eu un choc incroyable parce que tout ce qu'on apprend, tout ce que Florence apprend à ses élèves sur le mariage du sublime et du grotesque dans l'esthétique Hugo,
bah, tout
là,
y
on
est.
L'avait en vrai et ça nous a sauté au visage avec une force absolument incroyable.
Florence Novette.
Oui, cette Anglaise dont je vous parlais tout à l'heure, Gertrude Tennant, qui nous a livré ses souvenirs qu'on vient de découvrir, de ses visites à Victor Hugo, dit à quel point elle est effarée de voir ce mobilier qui ressemble si peu au bon goût anglais, si chargé, et elle est aussi très étonnée du fait que Hugo fermait les persiennes, fermait les volets, évidemment.
Il gérait
la lumière de façon étonnante et avait son salon toujours dans l'obscurité. Alors qu'au contraire, le lookout, lui, était en pleine lumière.
Il y a ce regard quand même esthétique aussi. Il se fait prendre en photo beaucoup à Guernesey par son fils, Charles. C'est le début de la photographie. Jean-Marc Ovas, vous en avez parlé. Ça va faire partie des grandes représentations qu'on a du goût, de même que sa vie sociale là-bas. Il fait son repas hebdomadaire pour les enfants pauvres.
Oui, alors, il y a deux choses. La photographie, c'est plutôt vraiment Jersey, donc c'est pas là. Il y a des photographes, des grands photographes qui sont venus faire des petites... Il y a des photographes à Guernesey, mais les photos vraiment qu'on voit partout, sur le rocher des proscrits, etc., c'est Jersey, c'est plutôt. En revanche, bien sûr, il y a le fameux repas des enfants pauvres qu'il organise à partir des Misérables, à partir de la publication des Misérables, publication qui va beaucoup l'enrichir. Et à ce moment-là, il instaure un dîner dans l'île, un repas, pardon, hebdomadaire pour tous les pauvres, pour les enfants pauvres de Lille, qui va avoir de plus en plus de succès, et il va faire de la publicité, et ça va être imité ensuite, c'était son but, par des institutions charitables en Angleterre, dans les pays du Nord, partout.
On pourrait encore en parler 2 heures, mais il faut s'arrêter. Merci beaucoup à tous les 3 d'être venus aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez à nouveau vous rendre à Guernesey, visiter Audley House restauré. Vous pouvez également découvrir la longue correspondance de Juliette Drouet sur le site juliettedrouet.org, édité sous la direction de Florence Nogrette. Et vous avez également co-dirigé le colloque Juliette Drouet épistolaire qui est publié par les éditions Eurédit depuis janvier dernier.
Deep within your heart, you know it's plain to see, like Adam was to Eve, you were made for me. They say the poison vine breeds a fine wine, our love is easy. If you ask me plainly, I would gladly say I'd like to have you round just for them rainy days. I like the touch of your hand, the way you make no demands, our love is easy. Our love is easy, like water rushing over stone. Oh, our love is easy, like no love I've ever known.
Et on entend Mélanie Gardot, Our Love is Easy, extrait de l'album My Own and Only Thrill, qui était sorti en 2009. Elle sera en concert d'ailleurs le 23 juillet au Festival Live au Campo à Perpignan, au Jazz Festival d'Albertville le 26 et au Marseille Jazz Festival le 27. Il est 13h30, bienvenue sur France Culture si vous nous rejoignez. C'est la deuxième partie de la Grande Table d'été avec pour invité le chorégraphe à l'honneur à Avignon, cette année Akram Khan. Ils sont 6 à se battre et se débattre sur scène, 4 hommes et 2 femmes dans un décor de ruines. Autour d'eux, des pierres grises, rectangulaires, parfaitement aiguisées, tablettes héritées des temps anciens. Ils se battent et dansent sur les vestiges d'un monde à reconstruire. Outwitting the Devil est le nouveau spectacle du chorégraphe britannique Akram Khan, qui a fait trembler la cour d'honneur du Palais des Papes d'Avignon. Akram Khan est aujourd'hui parmi nous, traduit par les soins de Marguerite Capelle.
Jours anciens, en ces années distantes, en ces jours anciens, quand toutes choses avaient été créées.
Akram Khan, bonjour. La musique qu'on entend, c'est la musique du début du spectacle Outwitting the Devil, qui se joue en ce moment dans la cour d'honneur. Qu'est-ce qu'il se passe quand cette musique arrive ?
En fait, ce paysage sonore ressemble à un cauchemar. En fait, tout le spectacle est un cauchemar qui se passe dans la tête d'un homme. Il essaie de rapporter les souvenirs qu'il a des crimes qu'il a commis. Mais ce paysage sonore, cet environnement sonore, reflète le traumatisme émotionnel de ces crimes et aussi le traumatisme psychologique.
Ça aurait pu être du Shakespeare, ce que vous racontez.
Oui, c'est amusant parce qu'en fait, l'histoire de Gilgamesh est la première que l'on connaisse, la première que l'homme ait écrit à propos de l'humanité. Et donc peut-être que Shakespeare, qui sait, s'est inspiré de ça.
Akram Khan, qu'est-ce que vous vouliez dire à travers ce titre « Tromper le diable », se jouer du diable ? Est-ce qu'il y avait plusieurs sens cachés ?
Wedding the Devil.
En fait, Outwitting the Devil part d'une trajectoire extrêmement personnelle, parce que je suis en train de vieillir, et en vieillissant, je sens le temps sur mon corps, contre mon corps. Oui, en tant que danseur. Dans la vie, ça ne me dérange pas, mais en tant que danseur, en fait, la danse, c'est ma vie, ça pose problème. Ou en tout cas, j'ai considéré ça comme un problème. Et je souffre encore du fait de ne pas pouvoir faire certaines choses que je pouvais faire plus jeune. Il y a une transformation dans ma relation avec mon corps, dans ma relation avec la danse, à cause de la seule constante qui existe, qui est le temps. Mais plus on avançait dans la création, dans le processus de création, j'ai compris que ce qui nous intéressait collectivement avec mes collaborateurs, avec Ruth Little, ma dramaturge, quand elle a proposé l'histoire de Gilgamesh, c'est devenu en fait l'histoire centrale qui nous a inspirés. Mais en réalité, Outwitting the Devil, c'est outwitting, donc déjouer l'humanité.
Mais quel est le rapport avec le diable? Est-ce que c'est l'histoire de Gilgamesh que vous racontez ou est-ce que c'est le diable en tant que métaphore dont vous parlez?
C'est clairement une métaphore de l'humanité. Nous sommes le diable, nous sommes le cancer de la Terre, de la nature. Nous détruisons la nature comme jamais auparavant. Mais la nature s'en vengera et se venge déjà aujourd'hui avec le changement climatique.
Akram Khan, parlez-nous des liens entre vos danseurs. Il y a quatre hommes et deux femmes qui sont sur scène, qui semblent expérimenter un certain nombre de liens entre eux.
Oui,
c'est un spectacle difficile. Parce que je suis très exigeant avec le public. Je leur demande de ressentir plutôt que de réfléchir en premier. Nous tombons facilement dans le chaos quand nous ne comprenons pas ce qui se passe. Et donc, je voulais court-circuiter le cerveau et impliquer émotionnellement en les prenant aux tripes. Et plus tard, après le spectacle, c'est intéressant de demander aux gens ce qu'ils ont pensé du spectacle. Juste après, ils ne savent pas quoi dire. Ils sont en train de digérer. Soit ils ont détesté, soit ils ont simplement besoin de temps pour digérer. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ça signifie que ça n'a pas encore pénétré dans leur espace mental. Et c'est important pour moi de faire ça parce que on nous dit quoi penser, on nous dit quoi ressentir et on a tout le temps besoin de savoir. Avec la technologie, avec Google, il suffit de taper tout ce qu'on ne sait pas et on obtient une réponse. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Comment ça se passait avant qu'on ait Google, avant qu'on ait Internet? On survivait quand même. Mais nous en dépendons tellement que je ne suis plus certain de savoir qui contrôle qui. Est-ce que nous utilisons la technologie ou est-ce que c'est la technologie qui nous utilise?
Finalement, vos personnages y repassent par toute la connaissance de l'humanité et ça se réfère à toutes ces traditions, toute cette connaissance commune. Akram Khan.
Oui, l'histoire de Gilgamesh est mythologique, se passe dans une époque mythique, le Mahabharata aussi. Ces mythes sont éternels. Ils sont là pour nous rappeler nos erreurs. Ils sont là pour nous rappeler nos possibilités, les grandes réussites, et ce sont des choses qui ne changent jamais en nous. Même quand notre environnement évolue, même quand nous évoluons, notre lien avec cet environnement. Autrefois, il y a très longtemps, nous étions très liés à la nature, nous n'étions jamais séparés, nous disions « nous ». Je, c'était nous. Et à un moment, c'est devenu je contre toi, moi contre la nature, comme si nous pouvions contrôler la nature, sans avoir conscience que nous en faisons partie, nous n'en sommes pas les maîtres.
C'est un peu ce qui se passe entre vos personnages, vos danseurs. D'une certaine manière, ce sont des compagnons, et d'une autre, ils se battent, il y a des scènes extrêmement violentes dans le spectacle.
Yeah, I mean...
C'était vraiment l'affrontement entre Gilgamesh et Enkidu, qui, ensemble, affrontent la nature. Il y a en fait trois personnages, un peu comme une tribu. Nous nous sommes servis de Kali, qui n'est pas dans l'histoire de Gilgamesh, mais qui vient de la mythologie hindoue. Nous en avons fait la mère de la nature, la mère nature, si vous voulez. C'est la manière dont on l'utilise. Ce n'est pas comme ça qu'elle a été utilisée auparavant. Elle a des enfants, Humbaba, qui est le gardien de la forêt, le gardien de la nature, le guerrier qui protège la nature. Et puis il y a aussi sa sœur, la fille de Kali, qui est innocente, qui est aussi celle qui pense que les hommes peuvent susciter la curiosité. Elle ne comprend pas le danger des hommes. Ils sont une tribu, mais Enkidu, qui est un autre personnage dans Gilgamesh, a été domestiqué, apprivoisé. Il aurait pu faire partie de cette tribu de la nature, mais il en a été séparé parce qu'il a été pris au piège par Gilgamesh. Et c'est ce qu'on fait avec les espèces animales. On les piège.
Avant de revenir sur l'épopée de Gilgamesh, Akram Khan, est-ce que vous pourriez nous décrire ce qui se passe au début de votre spectacle? Dans la cour d'honneur, il y a cette musique très forte de départ, et puis vos danseurs qui arrivent et qui enjambent des sortes de pierres, de tablettes qui sont sur le sol.
Nous avons en fait commencé par la cour d'honneur. On savait qu'on allait venir ici, donc ça a été la première inspiration. On l'a su il y a presque un an. Et donc d'une certaine manière, ce spectacle est assez impitoyable, mais la cour d'honneur l'est aussi. Il faut s'y abandonner, sinon ça vous dévore. Et c'est ça la réalité que nous avons décidé de prendre à bras le corps, en tout cas d'essayer. Nous sommes donc partis de cet espace. Nous ferons une autre version du spectacle pour les théâtres, disons, traditionnels ou conventionnels, mais celui-ci a été créé spécialement pour la cour d'honneur. Tom Scott, qui a créé la scénographie, a utilisé les fenêtres comme point de départ, comme si c'était des espaces vides et comme si les fenêtres étaient tombées et avaient atterri par terre. Ce sont devenus des boîtes noires. Il y a environ 400 boîtes noires de différentes tailles. Mais l'ambiguïté donne l'impression que c'est une ville. Surtout en ombre chinoise. On peut aussi voir un cimetière. On peut aussi penser aux boîtes noires qui sont une métaphore des crashs, des accidents d'avion.
Ça ressemble aussi à des sortes de promontoires sur lesquels les danseurs sont comme des statues.
Yes, absolutely.
Oui, tout à fait. Ce qui est important pour moi et avec mes collaborateurs, c'est de voir toutes les possibilités différentes, tous les sens différents qu'on peut tirer d'un même objet. Au début, on commence par le craquement d'un arbre. Vincenzo Lamagna, qui est l'incroyable compositeur du spectacle, il a amplifié ce son pour lui donner une dimension épique. Nous voulions commencer par le bruit de ce pouvoir, de cette fragilité, de cette douleur d'un arbre qui tombe, qui s'abat.
Vous parlez du son et de l'épopée sonore aussi qui est le spectacle, hein, qui est en lien avec l'épopée de Gilgamesh. Les sons, des bruits du monde, des bruits un peu inquiétants, sont mélangés avec cette très belle musique qui est très forte, en tout cas qui était très très forte à la cour d'honneur hier soir.
Oui, hier, en fait, c'était probablement la fois où c'était le moins fort. On a déjà passé trop fort la musique, je l'admets. En fait, les fauteuils tremblaient parce qu'on avait une basse sous le public qui était tellement puissante. On en plaisantait parce qu'on avait l'impression d'être dans un parc d'attractions sur le thème de Jurassic Park. Donc nous avons quand même baissé la puissance de la basse, mais c'est fort. Parce que c'est ce que j'entends du bruit dans le monde, j'entends le chaos. Et c'est extrêmement fort, ce bruit, avec la xénophobie. Le chaos s'accumule à une telle vitesse sur le plan politique et dans nos civilisations, avec l'arrivée des technologies. Quand est-ce qu'on entend du silence, en fait? C'est très rare. Et quand est-ce qu'on est immobile? On ne l'est jamais, on est toujours sur nos téléphones, on est en permanence en mouvement. Donc on n'est jamais seul avec nous-mêmes et la nature.
Et les inondations, alors vous ne m'avez pas répondu sur les inondations, elles sont en lien avec l'histoire de l'épopée de Gilgamesh.
Nous n'avons pas vraiment utilisé l'image des inondations comme quelque chose de central. L'histoire de Gilgamesh est quelque chose dont nous partons, à partir duquel nous créons notre propre récit. Nous ne suivons pas l'histoire de Gilgamesh exactement comme elle était, parce qu'on a introduit Kali, qui vient de la mythologie hindoue. Mais l'important, c'était qu'on voulait montrer ces sons de la nature, ces sons des éléments, l'eau, le bois, le feu, et les opposer à la voix humaine, et montrer cette relation entre eux. Il y a aussi toute une scène où, en fait, ce sont des bruits électroniques. Nous voulions aussi introduire la sonorité de l'époque moderne, en quelque sorte.
Je vous propose d'écouter Andrew George, qui était traducteur de l'épopée de Gilgamesh et professeur en études babyloniennes. C'était sur la BBC en 2016.
La forêt elle-même est utilisée dans le poème pour faire passer un message particulier. Gilgamesh et Enkidu vont dans la forêt pour abattre les arbres et tuer Humbaba. Et c'est ce qu'ils font. Mais le poème apporte une forme d'ambivalence dans cet épisode. On pourrait le voir comme un épisode héroïque, glorieux, mais en fait, les héros réalisent que ce qu'ils font va à l'encontre de la volonté des dieux. Et en fait, à la fin, après qu'ils aient abattu les arbres, Enkidu se retourne et dit « Mon ami, nous avons créé ce désert. Que dirons-nous aux dieux quand nous rentrons chez nous ?» Il y a cette prise de conscience que les hommes vivent dans un environnement qu'ils sont capables de détruire, d'abîmer, et que ce n'est pas bien. C'est ça l'idée aussi de cet épisode. Celle aussi d'envahir le pays de quelqu'un d'autre, de tuer le roi, de détruire toutes les ressources et de les ramener chez soi. Ça aussi, moralement, c'est mal. Et donc c'est une critique du pouvoir.
Qu'est-ce qui vient d'être dit par Andrew George à Akram Khan ?
Je pense que c'est exactement ce qu'on imaginait dans notre travail. C'est une. J'ai deux petits-enfants. J'ai une fille de 6 ans et un fils de 4 ans. Ma fille a regardé Nausicaa, qui est un film d'animation japonais. Elle a regardé, d'ailleurs, elle a vu plusieurs films d'animation japonais parce que ma femme est japonaise et donc ma fille et mon fils sont à moitié japonais. Mais elle a 6 ans et elle m'a demandé « Pourquoi est-ce qu'on détruit la nature, papa ?» Et elle n'arrêtait pas de me poser la question. Et je ne savais pas comment répondre. Elle m'a demandé, mais est-ce qu'on n'a pas appris de nos erreurs ? Et encore une fois, c'est une petite fille de 6 ans qui réfléchit comme une vieille dame sage, mais je n'ai pas de réponse. Tout ce que je me dis, c'est est-ce qu'il faut que j'invente quelque chose qu'elle puisse croire, quelque chose qui n'est pas forcément vrai, pour lui dire qu'on va apprendre et qu'on va résoudre le problème ? Aujourd'hui, nous sommes la première génération de notre espèce, de notre civilisation, à savoir pour le changement climatique, à savoir qu'il existe. Et nous sommes aussi la dernière génération à pouvoir agir dessus. Et c'est terrifiant. Que va-t-on laisser à nos enfants ? Quel environnement va-t-on leur laisser ?
Bien sûr, l'épopée de Gilgamesh, ça vous sert d'une sorte de grande référence qui vous permet de retranscrire tous les défauts de l'humanité. Mais il y a aussi une autre référence, c'est celle d'un poème de Rumi que vous avez choisi.
Je me suis servi de ce poème dans tous les spectacles que j'ai faits, en fait, parce que c'est un poème qui parle de transformation. Et j'aime la façon dont Rumi dit en très peu de mots comment il rend hommage à cette idée de la transformation. Ce dont ça parle, pour moi, c'est de se souvenir en permanence qu'il faut qu'on change, que nous devons nous transformer. Si nous sommes encore là, à l'avenir, s'il y a encore des gens, des hommes, ce qui semble peu probable, si la technologie les aide à survivre, nous aurons toujours cette même relation avec la nature. Il semble que nous soyons incapables d'apprendre. Donc à moins de nous transformer de l'intérieur, de transformer notre façon de voir le monde, de voir la nature, la relation que nous avons avec elle, comprendre qu'il ne s'agit pas que de prendre et de détruire, mais aussi de donner, nous n'aurons sûrement personne pour danser une œuvre qui parle de notre passé parce que nous ne serons pas là si nous ne sommes pas capables de changer. Nous devons apprendre à nous transformer. Et Rumi, dans ses poèmes, nous rappelle en permanence ce besoin de se transformer de l'intérieur et non de l'extérieur. Il ne s'agit pas de changer le monde. Elon Musk veut aller sur la Lune ou sur une autre planète. Ça veut dire abandonner tout ce qu'il y a ici parce qu'il n'est pas prêt parce qu'on n'est pas prêt à changer de l'intérieur. C'est presque comme dire « j'ai abandonné tout espoir que nous soyons capables de changer ». C'est aussi un peu ce que je dis. Je ne vois pas le changement, je ne sais pas comment on va changer, quand nous allons changer, si nous allons changer un jour. Nous sommes tellement intimement incrustés, liés à ce système économique capitaliste, que la nature nous forcera peut-être à changer, c'est peut-être ça qui va se passer.
Akram Khan, il y a aussi cette voix off que le spectateur entend et qui cite un certain nombre d'animaux qui rappellent un peu les postures des arts martiaux, du kung-fu. Est-ce que vous aviez fait est-ce que vous faisiez une référence directe au kung-fu ?
Non, c'est un peu par hasard. En fait, il se trouve que je suis naturellement attirée par le kung-fu. Je n'en ai jamais fait, mais j'ai toujours été attirée par les moines Shaolin. Je suis évidemment très fan de Bruce Lee, mais aussi de Charlie Chaplin, de Mohamed Ali, de Buster Keaton. J'ai donc beaucoup de héros, si vous voulez. Ma plus grande héroïne étant ma mère. Mais elle est dansée, des danses traditionnelles, elle me les a enseignées. Et puis elle m'a vu me mettre à danser comme Michael Jackson, très jeune, et elle s'est dit, bon, c'est bien, mais je vais te faire étudier la danse classique indienne. Donc j'ai commencé, et puis ensuite j'ai fait la danse contemporaine. Mais à l'adolescence, c'était vraiment l'imitation de Michael Jackson, de Bruce Lee, de Mohamed Ali. Donc les arts martiaux, j'ai le sentiment d'avoir toujours été très proche des arts martiaux, même si je ne les ai jamais étudiés. C'est peut-être pour ça que les images des animaux évoquent des postures d'arts martiaux. Mais la référence, en fait, c'était ce souvenir d'animaux qui ont dû quitter les villes parce que nous nous sommes emparés de leur territoire. Si vous allez en Antarctique ou en Arctique, les ours polaires meurent. Nous sommes l'espèce la plus menaçante qui existe dans le monde parce que nous sommes capables d'effacer d'autres espèces. Nous le faisons à notre propre espèce, à vrai dire. Avec les Amérindiens, par exemple, nous nous emparons d'un territoire, ou avec les pygmées par exemple, et nous effaçons ce peuple pour qu'il nous ressemble, pour qu'il soit comme nous. Nous effaçons ce qu'ils étaient depuis des milliers d'années. Malheureusement, c'est dans notre nature.
À un moment du spectacle, vous représentez la violence qui se manifeste entre les danseurs. Par exemple, il y en a un qui traîne l'autre par la bouche, un autre qui tire la langue, mais de manière assez terrifiante. Qu'est-ce que vous souhaitiez représenter par là ?
Exactly that. Bien, exactement ça.
We have an amazing capacity.
Nous avons une capacité incroyable à la gentillesse, mais nous avons une capacité tout aussi incroyable à la violence.
But I think that's partly because of the patriarchal.
Mais je pense que ça fait partie aussi du système patriarcal. Ce sont les hommes qui ont écrit les mythes. Le problème est là. Ce sont les hommes qui racontent les histoires, et en particulier des hommes blancs. Mais les hommes en général ont raconté, écrit ces histoires et font toujours des femmes les caractères de méchantes. Quand nous parlons de Jésus, nous parlons de Madeleine. Quand nous parlons d'Adam, nous parlons d'Ève, qui est la méchante. Quand nous parlons de Bhishma, nous disons qu'Amba est la méchante. Pourquoi mettons-nous les femmes dans ce rôle ? Parce que les hommes pensent avoir le pouvoir. C'est la première erreur et la plus fondamentale qui crée un déséquilibre et qui existe depuis tellement longtemps. Pour moi, le féminin représente la nature. Le masculin représente en quelque sorte l'humanité qui domine, qui veut dominer la nature, parce qu'il ne peut pas la contrôler. Et je me demande pourquoi nous sommes si menacés, nous sentons si menacés par la nature, peut-être parce que les hommes pensent qu'ils ne l'ont pas créé. Quand vous pensez aux musées, par exemple, les hommes construisent des musées, des monuments et dépensent des millions pour les entretenir. Ils sont très importants, mais ils prennent le passé au piège d'une façon bien particulière. On les voit au travers un prisme bien particulier. Il y a un travail de curation. Si nous investissions les mêmes sommes dans la nature, imaginez. Mais nous ne faisons pas ça parce que la nature, ce n'est pas nous qui l'avons créée, donc nous nous tenons séparés d'elle.
Dans votre spectacle, les représentations des femmes, ce sont des femmes combatives. C'est un peu la seule touche d'espoir dans un monde assez désespéré, un spectacle assez gris, assez violent, Akram Khan.
Yeah, I mean, I'm angry, obviously.
Oui, je suis en colère, manifestement. Vous le voyez bien en assistant au spectacle. Il y a beaucoup de rage. Vous savez, nous sommes les morts de l'avenir. Vous et moi qui discutons aujourd'hui, dans l'avenir, nous serons les morts. Mes enfants, nos enfants, ce sont eux l'avenir. Mais quel avenir est-ce qu'on leur laisse? À chaque fois que je pense à ça, je suis terrifiée et ça me met en colère. Il y a tellement d'incertitudes, tellement d'instabilité aujourd'hui.
Merci Akram Khan. Je rappelle que après s'être joué dans la cour d'honneur d'Avignon, votre spectacle Outwitting the Devil sera du 11 au 20 septembre au Théâtre de la Ville, à Paris, et puis ensuite en tournée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle grande table d'été. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Pascaline Bonnet, Alexandra Brouillet, Chouchane Djergaillan, Lou Le Joly et Julien Rosa. À la réalisation, Alexandra Longuet, prise de son, Pierrick Monsigny. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site France Culture.fr et sur l'application Radio France.